des polars et des notes.
Bonjour, bonjour, salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce Des polars et des notes spécial rentrée sur Radio Évasion, évidemment. Fini les vacances, on se remet les yeux en face des trous. Pierre-Yves est aux manettes, la barbe toute bronzée par le soleil breton, prêt à nous régaler d'un son du feu de Dieu. Si vous n'avez pas le temps de noter les titres, bah c'est pas grave. L'auteur, l'éditeur, le nombre de pages, tout ce que vous voulez, tout ça c'est référencé sur le webzine 404. Alors je vous pose la question, a-t-on vraiment besoin de la littérature noire encore ? On se pose la question parce qu'avec toutes les infos qui nous tombent dessus depuis un mois ou deux, on peut légitimement se demander si la lecture de la presse ne suffit pas à nous faire frémir. Côté rassurant, la continuité écologique est assurée. Nous pourrons toujours déguster de la soupe au glyphosate réchauffée sur une plaque fonctionnant grâce à nos vaillantes centrales nucléaires hors d'âge. Bien entendu, accompagnée d'une entrecôte de bœuf aux hormones canadiens qui va nous envahir les supermarchés selon le merveilleux CETA. Sinon, j'aurais tendance à répondre que oui, nous en avons besoin plus que jamais, même pour comprendre notre société telle qu'elle est, sans les artifices et paillettes souvent projetés dessus, pour nous souvenir aussi que le passé permet d'analyser perpétuellement le présent, que le nouveau monde n'est que la continuation de l'ancien, même s'il prétend le contraire, et que changer de vocabulaire n'a jamais transformé une réalité, ne l'oublions pas. Nous allons en avoir encore la confirmation aujourd'hui avec notre invité Romain Slocombe, avec qui nous allons parler de la très très sale époque de la collaboration et de l'occupation. Mais avant tout, on commence par un magnifique roman noir paru aux éditions Liana Levy, Route 62 d'Ivy Pochoda, qui s'ouvre sur un type tout nu qui court à contresens sur une autoroute embouteillée de Los Angeles et nous raconte des destins singuliers de personnages à la marge, collés au bitume des trottoirs de la Cité des Anges ou scotchés dans le désert, occupés à se fuir. C'est un livre superbe qui deviendra un classique, ça j'en suis sûr, du genre très très noir, tant l'auteur a tout compris de la détresse humaine. Ne le ratez pas, et bien sûr il y a de la musique à l'intérieur, du blues et en particulier Black Lash Blues, et c'est Nina Simone qui le chante. Mr. Backlash, Mr. Backlash, just who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages and send my son to Vietnam. You give me second class houses and second class schools. All colored folks are just second class fools, Mr. Backlash. I'm gonna leave you with a backlash blue. When I try to find a job to earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. Mr. Backlash, Mr. Backlash, just what do you think I got to lose? I'm gonna leave you with the backlash blues. You're the one who'll have the blues, not me. Just wait and see. 22 Vlasadorski, et oui, le chef du rayon juif des renseignements généraux a repris du service pour le troisième volume de la trilogie qui lui est consacrée. Le meilleur de la série, à mon humble avis, Sadorski et l'ange du péché, qui est paru aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, et qui nous entraîne entre autres vers les plateaux de cinéma de l'occupation. Romain Slocum, son auteur, est avec nous pour en parler. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors avant toute chose, pour moi personnellement, donc c'est fini, plus de Léon, plus de Sadorski ?
Non, parce que le roman s'arrête en avril 1943. Il y a encore beaucoup de choses, comme vous savez, qui sont passées après. J'ai l'intention de suivre Sadorski jusqu'à l'épuration, mais ça signifie d'autres romans. Et pour le moment, je boucle une première époque avec cette trilogie. Et il y aura une deuxième époque qui s'ouvrira en 1944, mais qui sortira pas avant un an ou deux, en tout cas.
Ah oui, mais on va retrouver Léon, alors.
On va retrouver Léon et les autres personnages, enfin ceux qui ont survécu en tout cas, parce que c'est un peu un jeu de massacre, mais il y en a qui sont encore là, et on va suivre un peu la vie de ce policier ripoux et pétainiste, et puis la vie des gens qui l'entourent, parce qu'il protège une jeune juive, il y a l'épouse de Sadorski, qui est une personne plantureuse et assez sympathique. Il y a beaucoup de gens qui tournent autour de lui, et puis dans cet immeuble du 4e arrondissement à Paris.
Oui, parce que la fin, ça se termine quand même sur un superbe cliffhanger. On se dit, oh, il ne peut pas nous laisser comme ça, quoi.
Non, ce serait trop sadique, mais c'était pour créer un petit peu un choc aussi, parce que j'aime bien, les trois romans sans raconter évidemment ce qui se passe à la fin, mais les trois romans se terminent tous les trois par une phrase extrêmement brutale qui sonne un peu le lecteur et lui donne à réfléchir en même temps.
Ah ben là, il y a matière à réfléchir, hein, parce qu'on est, quand le roman s'ouvre, on est en mars 43.
Oui.
Et donc Sadorski, on répète en deux mots, c'est le chef du rayon juif aux renseignements généraux. Il est inspecteur principal adjoint. Il est chargé des rafles, de vérifier les papiers. C'est un type qui est pétainiste, patriote. C'est un héros de 14-18, pas vraiment collabo parce qu'il n'aime pas les Allemands. Mmh. Il a toujours l'image du Bosch et puis il les trouve assez bêtes finalement.
Ouais.
Et puis, il dédaigne pas non plus de faire main basse sur de l'argent ou des bijoux quand il fait une descente. Il s'amuse aussi à ajouter communiste en dessous de juif pour être bien sûr que la personne qui l'a arrêté soit déportée. Enfin, c'est vraiment un salaud, quoi. N'ayons pas peur des mots. Et là, en mars 43, il y a un petit peu comme une bascule. C'est ça que je voulais parler avec vous au début du livre. C'est que tout d'un coup, tous les Sadorski de France commencent à s'apercevoir que les carottes sont un petit peu cuites.
Oui, parce qu'il y a eu, tout simplement parce qu'il y a eu Stalingrad et que on peut pas empêcher le monde entier de savoir que les Allemands ont pris une énorme gamelle dans le Caucase et que les armées allemandes commencent à ce qu'ils appellent pudiquement se replier sur des positions préparées à l'avance. C'est ce que disent toujours les communiqués militaires, quand en fait ça veut dire qu'on est en train de perdre et de reculer le plus vite possible. Donc tout à coup, tous les gens qui ont cru à l'Allemagne se disent oula. Vu comme ça commence maintenant, dans deux ans, les Américains seront peut-être à Paris, les communistes auront peut-être pris le pouvoir en même temps, tous ceux qui auront travaillé pour les Bosch risquent leur peau, tout simplement. Et donc on commence à songer, enfin certains policiers, pas Sadorski lui-même d'ailleurs, mais ses collègues commencent à songer à prendre des garanties pour le futur, c'est-à-dire à protéger deux ou trois personnes pour pouvoir dire après qu'on a fait de la résistance ou qu'on a protégé des juifs.
Ouais, Sadorski, il a un petit côté quand même prévoyant, en sens où il essaye de se faire un matelas financier suffisant pour pouvoir supporter les changements. Et puis, il commence un petit peu à instiller ça et là qui pourrait être un résistant, enfin, ou tout du moins un protecteur de juifs, puisqu'il garde Julie chez lui.
C'est vrai, mais il ne le fait pas du tout pour des raisons de protection, d'autoprotection, mais tout simplement concernant Julie, parce qu'il est obsédé sexuellement par cette adolescente et qu'il est en train d'accomplir une sorte de rêve, c'est-à-dire d'avoir à la maison, de créer une sorte de famille à trois, d'avoir à la maison sa femme qu'il adore et ses mutuelles, etc. Mais également cette fille qui l'obsède, de créer une sorte de ménage à trois. Donc il est obsédé par cette idée. Et quant à l'argent, bah finalement c'est plutôt des mauvaises habitudes de flics corrompus, d'essayer de profiter un maximum. Mais effectivement, c'est en cette période où c'est un peu dur quand même l'occupation, mais il y a également des opportunités extraordinaires. Et comme il est malhonnête, il se fait beaucoup d'argent par diverses sources comme ça. Mais c'est pas tellement pour sa protection, parce qu'après tout, l'argent ne lui servirait pas à grand chose s'il y a un tribunal d'épuration et une cour de justice de la Seine qui le condamne à mort. C'est un personnage, c'est un peu un loup solitaire, c'est un personnage assez complexe, Sadorski. C'est pas un type de gauche, mais ce serait plutôt un socialiste de droite, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'il fait partie des gens qui se sont révoltés lors de la fameuse émeute du 6 février 1934, qui ont marché sur l'Assemblée nationale, inspiré par l'extrême droite, mais c'est également une sorte de rejet populaire ou populiste des députés pourris, des politiciens, enfin un peu comme maintenant d'ailleurs. Et donc lui, finalement, c'est un pied noir de Tunisie. Son père était fermier, il aime pas les riches, et d'ailleurs il va être amené à les fréquenter dans ce roman, oui. Puisque il avait été invité à prendre le thé dans le salon d'une bourgeoise dans le quartier de l'Étoile, et en fait cette bonne femme, il la déteste, et il aime ni les riches, ni les Allemands, ni les étrangers, voilà, pour simplifier.
Et donc le roman s'ouvre, il y a les lettres de dénonciation, bien sûr, qui pleuvent à l'époque. Pour dénoncer les juifs, le trafic, le marché noir, enfin tout le monde dénonce tout le monde. Et Sadorski se dit que c'est peut-être pas trop mal l'affaire qui lui tombe sur un trafic d'or entre la zone non occupée et Paris, et qui va peut-être réussir à se faire un magot avec ça. Et donc il entreprend toute une série de magouilles. Mais j'ai l'impression que dans ce volume-là, dans ce troisième volume, Sadorski est de plus en plus osé, qui dépasse un peu toutes les limites.
Oui, c'est ça. C'est un peu dans son caractère, en fait. C'est un type qui aime bien jouer son petit jeu personnel là-dedans. Il respecte pas tellement la loi, en fait. Il l'exerce.
La loi, c'est lui, quoi.
Oui, il exerce la répression, mais comme beaucoup de flics à l'époque, ils sont investis tout à coup d'un pouvoir énorme. Eux-mêmes ont peur des Allemands, mais les Français ont également très très peur de la police elle-même. Et les policiers français sont beaucoup plus nombreux que les policiers allemands. Et il en profite, mais il pète un peu les plombs, en fait. C'est vrai qu'il va, il se croit, comme ça lui a plutôt réussi dans les deux volumes précédents, il se croit un petit peu omnipotent, et donc du coup, en fait, il va dépasser les bornes, et sans raconter non plus ce qui se passe dans le livre, il va commettre certaines actions totalement répréhensibles aux yeux de la loi, et d'autres qui, du point de vue moral, qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs, mais d'autres actions qui, d'un point de vue moral, sont absolument écœurantes. Et se croyant invulnérable, il va un petit peu aller trop loin et se mettre en danger.
Mais on a l'impression, dans ce roman-là, qu'à chaque fois, il va presque être humain, il est touché, qu'il est presque ému, et à la fin, il ne peut pas s'empêcher de tout saborder en rajoutant à son palmarès de salaud.
Oui, voilà, c'est ça la dualité du personnage de Sadorski, et je pense que c'est ça, bon, d'après les retours de lecteurs que j'ai qui fascinent les gens, c'est que d'une certaine manière, on s'attache à lui, quelquefois on le comprend, ou on espère que la personne qui est en face de lui, qui est pire que lui, va y passer. Quelquefois on voit qu'il a l'occasion de protéger quelqu'un et qu'il le fait effectivement, donc du coup on espère qu'il va réussir à sauver tel ou tel juif, par exemple. Mais en même temps, il va faire des choses horribles, et tout à coup on se dit mais non, c'est pas c'est pas ça. Et puis aussi, il opère une sorte de division qui est la sienne, c'est-à-dire que entre les juifs, entre les hommes juifs dont il n'a absolument rien à foutre et il est tout à fait content que la société française les rejette, les arrête, les interne et finalement les expulse du territoire, et même si c'est pour être gazé ou tué là-bas, il s'en fiche un peu. Quand c'est juif de femme, ça lui pose déjà un certain problème parce que il a un côté un peu sadique, un peu voyeur aussi, dont quelque part les femmes en détresse le fascine. Et puis quand on lui dit que quand il entend un nazi lui raconter comment en Pologne il a fracassé le crâne d'un bébé sous les yeux de sa mère, alors là quand on dit, là il est vraiment choqué. Pour lui, c'est quelque chose qui absolument, c'est un ordre auquel on ne peut pas obéir et il s'aperçoit que les nazis, eux, obéissent à ce type d'ordre et que finalement les enfants qui partent dans les wagons, c'est un voyage qui risque de se terminer très mal pour tous les déportés, y compris les personnes les plus vulnérables. Et ça lui pose quand même un problème. Et de même qu'il n'aime pas être manipulé. C'est pour ça qu'il s'intéresse à une juive en particulier, parce que le policier corrompu qui a dénoncé cette jeune femme a essayé finalement d'utiliser la préfecture de police
contre lui.
Au profit personnel, et ça il n'aime pas, il a l'impression de s'être fait entuber, quoi, Sadorski, et donc cette juive aussi, il va décider de après l'avoir bien embêtée, de la protéger.
Bon, on va faire une première petite pause musicale avec Sweet Georgia Brown qui est de Ella Fitzgerald, qui figure dans le livre, et on se retrouve tout de suite après.
When she lands in town, what a shame, how she cools him down. Fellers, she can get cut off, fellers, she ain't mad. Georgia, hold your name, a hymn to Georgia, hold your claim to her, sweet Georgia Brown. No gal made as Georgia, how to shake it on, sweet Georgia. Georgia Brown.
compagnie de Romain Slocum pour son roman Sadorski et l'Ange du Péché, paru aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Alors Romain, on a l'impression, vous me dites si je me trompe, que vous vous attachez à démontrer quand, qu'outre la machine infernale de mort nazie, la Shoah, les wagons, etc., tout ça découle de toute une chaîne de complicité qui part de la concierge parisienne au minable petit voleur trafiquant du bistrot parisien en passant par la police française, et que sorifié à juste titre devant Auschwitz, c'est un peu glissé sous le tapis toutes les lettres anonymes, les remarques, les désobligeantes, le racisme ordinaire et toutes les mesquineries jalouses qu'il y a eu en France à cette époque.
Alors évidemment, il ne faut pas exonérer les Allemands de leur responsabilité,
pas du tout,
hein, parce que c'est bien, ce sont bien les nazis qui ont ordonné les déportations massives et qui ont organisé la Shoah. Mais c'est vrai qu'ils sont arrivés en France sur un terreau extrêmement fertile et qui était préparé tout au long des années 30, qui est celui de la xénophobie ordinaire française et de l'antisémitisme français, qui étaient deux réalités. Au point que quand l'extrême droite a pris le pouvoir par une sorte de tour de passe-passe facilité par la débâcle de juin 40, et quand la République a été assassinée, et que l'État français est devenu une sorte de dictature avec un militaire à sa tête, et qu'il a mis en place des ministres qui étaient des hurluberlus issus de l'extrême droite, un peu ce qui se passerait d'ailleurs si le Front National arrivait au pouvoir, ce qui me paraît très improbable, mais les ministres seraient de sacrés hurluberlus. Et les gens autour de Pétain, il y en avait un paquet, et donc ils ont mis au point ce qui était leur rêve antisémite depuis l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire de mettre au point des lois d'exclusion d'une catégorie de la population française, c'est-à-dire les juifs, qu'ils soient étrangers ou français. Les lois anti-juives étaient extrêmement sévères, surtout le deuxième statut des juifs en 1941, qui est plus sévère que la législation allemande.
D'ailleurs, vous parlez justement des décisions de Vichy, moi qui m'a rappelé Trump très fort, la déportation des enfants juifs qui était demandée dès 2 ans, je crois, par les Allemands, a été ramenée à 6 mois. Pour des raisons humanitaires, pour ne pas séparer les enfants des parents.
Oui, et surtout en fait pour fournir le nombre de déportés exigés par les Allemands pour remplir les wagons. Et c'est effectivement René Bousquet, ami de Mitterrand et qui a été abattu chez lui par un écrivain d'ailleurs, qui s'appelait Christian Vincent, si je ne me trompe.
Oui, c'est
et,
ça.
Bousquet, en fait, qui était secrétaire général de la police, équivalent de ministre de la police, on disait pas ministre de la police parce que ça rappelait Fouché, donc on pouvait pas mettre ça, mais disons que ça correspondait à ministre de la police. Bousquet, effectivement, a abaissé la limite de déportabilité, comme on disait, de 2 ans à 6 mois. Et les femmes enceintes, jusqu'à 8 mois, partaient également pour Auschwitz, jusqu'à 8 mois de grossesse. Et d'autre part, pour revenir à ce statut des juifs, les demi-juifs, enfin, c'est-à-dire quelqu'un d'un parent arien, comme on disait, et d'un parent juif, risquaient d'être déportés eux aussi dans la France de Vichy parce que il fallait qu'ils prouvent qu'ils étaient catholiques et qu'ils avaient été baptisés ou catholiques ou d'ailleurs autre chose, musulmans ou protestants ou orthodoxes, mais qu'ils étaient entrés officiellement dans une religion avant le 25 juin 1940, avant donc l'arrivée des Allemands à Paris et donc avant que ce ne soit des baptêmes d'opportunité.
Mais vous montrez très bien qu'il y avait tout un trafic avec un professeur à Paris qui signait contre monnaie sonnante et trébuchante des fortes sommes, d'ailleurs des certificats de non-judéité.
Voilà, donc autre hurluberlu, c'était le professeur Montandon, qui était une soixantaine d'années à l'époque, et qui était le, entre guillemets, grand spécialiste de la question juive, et donc qui avait établi un travail extrêmement lucratif d'expert en judéité, et la préfecture, quand ils n'étaient pas trop sûrs, lui envoyait un demi-juif pour qu'il l'expertise, ce type dont les expertises, le vocabulaire est absolument fantaisiste, hallucinant, décrétait souvent avec joie la personne 100% juive, ce qui fait que du coup le parent arien, entre guillemets, le parent non juif, lui risquait d'être déporté également, parce que du coup si le fils ou la fille était 100% juif, ça voulait dire que les deux parents l'étaient également, donc un parent non juif automatiquement, par logique cartésienne française et administrative, devenait juif 100% et pouvait être déporté. Et là, comme vous parlez justement de cette xénophobie française, le gouvernement de Vichy, en fait, protégeait en un sens les juifs français, parce que c'était assez difficile quand même pour des xénophobes patentés de la droite française d'expulser des Français de France. Et là, on en revient justement à ces problèmes très contemporains d'expulsion et de nationalité. Et donc, tant qu'on n'arrivait pas à les dénaturaliser, ce qu'ils ont essayé de faire d'ailleurs, eh ben, un juif français, quand même, ça valait mieux qu'un juif étranger, mais comme les Allemands, qui eux n'en avaient rien à foutre, tout ce qu'ils voulaient c'était 1000 juifs par train et un point c'est tout, les Allemands ça leur était égal que le juif soit polonais, tchèque, russe ou français, mais les Français eux essayaient donc de garder si possible leurs juifs français sur le territoire, et donc pour obéir aux Allemands il fallait envoyer d'autres juifs, et évidemment là il y en avait qui étaient tout près, c'était les étrangers, les immigrés de fraîche date, qui venaient massivement de Pologne. C'est la population juive d'immigration polonaise qui a fourni le contingent le plus immense à la déportation. Parce que 76 000 personnes qui ont été déportées, dont une très très grande partie d'étrangers.
Mais Sadorski s'arrangeait, c'est-à-dire que quand le juif était français, il pouvait toujours rajouter communiste.
Oui, parce que lui, au début, surtout dans les premiers romans, et c'est dans la réalité du personnage qui a un peu inspiré Sadowski, un policier français qui s'appelait Louis Sadowski, le nom n'est pas très très différent. Effectivement, on a d'ailleurs dans les archives des traces de fiches d'arrestation, de fiches de juifs où il rajoutait à la main communiste, dangereux pour l'ordre public, etc., propagandiste, acharné de la Troisième Internationale, mais sans aucune preuve, il rajoutait ça tout simplement parce qu'à l'époque, les Allemands ont cessé de faire des fusillades massives d'otages. En 43, ça ne se fait plus trop, mais en 41-42, il y en avait. Et donc, les Allemands, eux, pareillement, ils ne savaient pas qui fusillait, donc ils demandaient à la préfecture de police de leur donner des noms d'otages à sortir des prisons et des camps pour les fusiller. Et Sadowski, pour se simplifier la tâche, il rajoutait communiste, et donc ces gens se retrouvaient tout de suite sur le dessus de la pile, et ça faisait des listes que les policiers français pouvaient donner aux Allemands.
Eh ben dis donc, c'était une sacrée époque quand même, mais ça n'empêche que quand vous parlez des juifs dans le roman, vous dites, il y a certains de vos personnages qui parlent de juifs qui se gargarisent au champagne sur la Côte d'Azur, etc. Ça me fait penser aux migrants qui font du benchmarking un petit peu.
C'est vrai que la différence, c'est que comme il y a toujours eu cette espèce d'étiquette qui colle aux juifs, même de nos jours, c'est ce truc que les juifs sont riches, alors qu'en fait la plupart des juifs en France à l'époque étaient extrêmement pauvres. Ceux qui venaient de Pologne vivaient dans des conditions, dans l'est de Paris, dans des conditions assez abominables. Ils avaient pas de salle de bain, ils se chauffaient dans un poêle, ils se lavaient dans l'évier, ils avaient qu'une ou deux pièces avec des familles nombreuses, et ils travaillaient dans des ateliers un peu comme les Chinois, par exemple, travaillent avec ces ateliers remplis de machines à coudre qu'on voit qui existent dans les quartiers de Paris. Les Français, pour eux, c'était des concurrents. Donc il y a d'une part les Juifs riches, les métèques, les plutocrates, les amis de Rothschild, etc. Mais d'autre part, il y a aussi les Juifs qui font la concurrence, et là, ça, c'est les Juifs étrangers qui font de la concurrence déloyale en cassant les prix, en travaillant au noir, etc. Et même les syndicats communistes comme la CGT à l'époque, dans certains types de travail, justement protestaient contre les étrangers qui qui cassait les prix, etc. De même que les étudiants dans les années, au milieu des années 30, il y a une photo de Mitterrand d'ailleurs au milieu d'un groupe d'étudiants manifestant contre les métèques et les étrangers. Les étudiants en droit, notamment les étudiants en médecine, sont mis en grève en fait contre le nombre grandissant des étudiants étrangers qui plus tard menaçaient de leur piquer leur travail.
Eh ben, comme quoi il a pas volé ça, Francisque. On fait une petite pause musicale avec Édith Piaf, J'ai qu'à le regarder, qui figure également dans le roman.
Il a plutôt la gueule gentille, il se laisse aimer tout comme les filles, il vous regarde en rigolant, alors bien sûr, c'est désarmant. Il vous donne rendez-vous un jour, il venait ça serait trop facile, on attend comme une imbécile. Il est vraiment fait pour l'amour. J'ai qu'à regarder, j'ai envie de chanter, courir dans les champs avec le printemps, de chanter pour moi, de crier ma joie. Dès que je l'aperçois, il me regarde comme ça, puis il me dit tout bas, viens, on va s'aimer. J'ose plus respirer, que c'est bon de l'aimer. La 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 la. Ça sera ma dernière aventure, oh mon Dieu, pourvu qu'elle dure. Si je devais plus le revoir un jour, je serais dégoûtée de l'amour. Il attend pas mon tour de lui, qui rôde autour de ses épaules. Alors je suis là, je m'accroche à lui. Il y a vraiment lui qui trouve ça drôle. Regardez, j'ai envie de chanter, courir dans les champs avec le printemps, de chanter pour moi, de crier ma joie. Dès que je l'aperçois, il me regarde comme ça, puis il me dit tout bas, tiens, on va t'aimer. J'ose plus respirer, parce que c'est bon.
Avec Romain Slocombe, et on va parler d'art maintenant, parce que l'époque de l'occupation, la collaboration, etc., c'était une époque aussi où il se passait énormément de choses. Et contrairement à ce qui est communément admis, moi j'ai appris dans votre roman que le jazz n'est pas du tout arrivé avec les troupes américaines et que les soldats allemands adoraient le jazz.
Oui, oui, oui. C'était quelque chose que je savais pas moi-même, mais bon, un ami journaliste m'en a parlé. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de parler du jazz, pas seulement du cinéma, mais aussi du jazz sous l'occupation. Et donc, bon, j'ai fait quelques petites recherches. Je me suis aperçu effectivement que non seulement il y avait le Hot Club
du Mans, je crois,
Paris, voilà, et dans plusieurs, enfin, il y avait, c'était c'était réparti sur beaucoup de villes françaises où il y avait des jeunes qui étaient fans de jazz, parce qu'il n'y a, pas que les Zazou dans la jeunesse française, il y a aussi des tas de fans de jazz partout qui ne sont pas forcément Zazou, et également dans l'armée allemande est pleine de jeunes forcément, et ils adorent le jazz, et le jazz n'est pas d'ailleurs tellement interdit en Allemagne et non plus en France, c'est juste qu'ils ont les titres anglais là qu'il faut un petit peu modifier,
franciser, ouais.
Voilà, donc on francise les titres anglais, ça donne des résultats assez rigolos.
Par exemple, ce qu'on a passé, la Sweet Georgia Brown, c'est devenu Douce Georgette Brune.
Oui, voilà. et donc, il y a forcément, et puis aussi, c'est, comment dire, tous ces gens, ils en ont marre de la guerre, ils ont envie de s'amuser, etc., etc. Et ça vaut également pour les truchions allemands qui sont de plus en plus jeunes, parce que vu les pertes gigantesques sur le front en Russie, Hitler est obligé de mobiliser de plus en plus de catégories d'Allemands, donc des très vieux, des très jeunes, et donc les très jeunes, ils font un peu du tourisme aussi, on leur fait visiter Paris, le Louvre, ils regardent l'Arc de Triomphe, etc. Il y a même une scène justement d'un attentat réel d'ailleurs qui s'est réellement produit à cet endroit-là, à cette date-là. Et puis évidemment, ils adorent le jazz et le personnage de Bernard, qui est un jeune français qui est un des personnages importants du livre, lui aussi, il adore le jazz et puis ça lui donne quelques idées justement pour la résidence, distance, etc. Et ça, dans ce qui va un peu profiter également de cet amour des jeunes pour le jazz.
Et donc, l'ange du péché, on y vient, Sadorski arrive par une suite de coïncidences de ses enquêtes sur un plateau de tournage, et c'est le film de Bresson, le second film de Bresson. Et là, on voit toutes les difficultés du cinéma pendant l'occupation, le manque de pellicules, l'interdiction de faire tourner des acteurs ou actrices juives, les couvre-feux, etc. Et que rien à cette époque-là ne pouvait se faire sans l'accord des autorités.
Oui, tout à fait. Et puis, en fait, j'avais lu une biographie de Giraudoux où j'avais vu que ce film avait été tourné en 1943, qui était juste la période qui m'intéressait. Et puis, je trouvais que ce film avait un titre magnifique, Les Anges du Péché. Et d'ailleurs, il est repassé à la Cinémathèque il n'y a pas très très longtemps. Et c'est plutôt un beau film, d'ailleurs, et qui a été primé à l'époque, qui a eu un grand grand succès commercial. Et en plus, il se passe dans un couvent de dominicaines. Donc, il n'y a pratiquement que les femmes dans le casting. Et elles sont toutes habillées en nonnes. Donc, il y a un aspect un peu esthétique et fétichiste dans cette histoire qui pouvait que me plaire.
Sadorski aussi, d'ailleurs.
Voilà, Sadorski aussi, parce que en fait, il y avait déjà un côté, d'ailleurs, le véritable Sadowski, dans le récit qu'il fait de sa détention à Berlin, dit qu'il récitait des pater et des ave, donc c'est quelqu'un de catholique. J'ai même trouvé d'ailleurs sur internet, dans la liste des baptêmes en Tunisie, j'ai trouvé son nom sur ça. Il a été baptisé en 1900. Et donc j'en ai fait, et dans le deuxième épisode, par exemple, il se confesse. Donc la dimension également catholique du personnage, chrétienne, me paraissait intéressante. Et là, effectivement, il va se retrouver entouré de toutes ces religieuses qui lui rappellent des souvenirs et des émois d'adolescence, en fait, dans sa paroisse en Tunisie. On va comprendre pas mal de choses, d'ailleurs, sur sa sexualité avec cette rencontre qu'il fait avec une actrice, une charmante jeune actrice qui est habillée, qui est demi-juive, donc ça nous ramène à cette problématique. Et donc elle fait semblant d'être alsacienne pour pouvoir tourner, puisque les juifs n'ont pas le droit de travailler dans le cinéma. Ça va être une sorte d'apparition pour lui, cette jeune femme en religieuse, qui d'ailleurs illustre la couverture du livre. Donc je me suis renseigné sur les conditions de tournage sous l'occupation. J'ai acheté les mémoires de la productrice, les mémoires du révérend père Bruckberger, qui était le conseiller technique, et puis le texte d'origine de Giraudoux, qui a écrit les dialogues. Et donc je me suis rendu compte que c'était effectivement très spécial spécial. Les tournages avaient lieu de nuit pour des histoires de restrictions d'électricité, parce que c'était le seul moment où on pouvait avoir assez d'électricité pour qu'il n'y ait pas de coupure en plein milieu du tournage. Et d'autre part, qu'il faisait tellement froid dans les studios des buts de Chaumont que les acteurs, les actrices du film se chauffaient autour de bras zéro allumés en plein milieu du studio, ce qui est assez cocasse. Et d'autre part, qu'en même temps, dans le studio voisin, se tournait un film qui se passe aux Folies Bergères, un film de Georges Lacombe, et il s'appelle L'Escalier sans fin, où joue Pierre Fresnay, et où la plupart des actrices, elles, sont habillées en girls de musical, avec les plumes, le French cancan et tout. Donc il y avait une cohabitation des religieuses et des girls de French cancan, voilà, des girls qui étaient assez rigolotes et qui tout à fait authentiques. Ma description est assez réaliste de ce qui s'est passé pendant le tournage de ce film.
Et Sadorski, oui, donc effectivement, enquête et va trouver presque une forme de rédemption dans la Sainte Vierge, mais
oui, voilà.
Qui préfigure un petit peu tous les ennuis qu'il va avoir. Et il y a un autre aspect que vous abordez, c'est les artistes. Alors les artistes, oui. Ceux qui sont glorifiés comme Trenet, Maurice Chevalier, Luis Mariano, qu'on retrouve à toutes les soirées où il y a des SS.
Oui, Tino Rossi
qui sort avec Léandri, qui est un mafieux qui travaille pour la Gestapo. Donc tous ces gens-là sont passés à travers la passoire de l'épuration sans trop de problèmes finalement.
Oui, quand ils étaient très connus, ça s'est arrangé. Et puis bon, Mireille Balin a eu sa carrière quand même ruinée parce que elle s'est réfugiée sur la Côte d'Azur à la fin de la guerre avec son amant officier allemand et les résistants leur sont tombés dessus et ils ont violé cette malheureuse Mireille Balin et qui est une très très belle femme et dont la carrière a été ruinée après la guerre. Les autres, ils ont eu un petit purgatoire, Arletty, Viviane Romance, Ginette Leclerc, tous ces acteurs ont fini quand même par retrouver le chemin des studios.
Mais les hommes sont passés au travers. Trenet, Chevalier, Mariano, Tino Rossi n'ont pas eu de problème.
Oui. Il y a quelque part qui traîne sur Internet un film assez drôle où on voit Maurice Chevalier essayant de se justifier en expliquant qu'il n'était pas collabo, etc. Il bégaye de trouille, en fait, pendant sa justice, son auto-justification.
Donc, comme quoi, si vous collaborez, essayez d'être riche avant.
Oui, ça vaut peut-être mieux. Enfin, l'argent, ça aide toujours. Et puis c'est vrai qu'ils vont mettre français 100%.
Eh bien, merci beaucoup, Romain Slocombe. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est le troisième tome de la trilogie. C'est Sadorski et l'ange du péché, qui est paru aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Et pour clore, ben, on va changer un peu d'atmosphère. On va s'écouter l'affiche rouge, qui est l'affiche des résistants MOI, main d'œuvre immigrée.
Et oui, qui apparaissent également un peu dans le roman. D'ailleurs.
Qui apparaît dans votre roman et c'est chanté par Bernard Lavillier. Merci beaucoup, Romain Slocombe.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Vous n'aviez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang. Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles et faisaient un effet de peur sur le passant. Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient inscrit sur vos photos « Mort pour la France ». Les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit « Calmement, je meurs, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les larmes, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini pour nous, on est rêveur. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sous nos pas triomphants, ma Mélinée ou mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre, à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
L'affiche rouge de Bernard Lavillier et tout de suite les romans de Dance Floor, la chronique que le monde entier nous envie. Bonjour Dance.
Bonjour.
Alors, qu'as-tu lu pendant tes vacances ?
Ben, plein de choses, mais je vais pas parler de tout, hein, seulement deux livres.
Non, soyons concis.
Voilà, exactement. Alors, d'abord Simple de Julie Estève chez Stock.
D'accord, pas trop compliqué pour débuter.
Ça va pas le faire si tu me perturbes comme ça.
Non, le titre, c'est Simple. Voilà.
Alors, la Corse, donc les montagnes, un village perché entre les forêts, le lac, les figuiers. Et ça commence, le livre commence, on enterre le fou, le dingue, qui est mort reclus dans sa bicoque décrépite, sans eau ni électricité. Alors, comme dans tous les villages, il y a le fou, l'idiot, celui qui n'est pas comme tout le monde. Et celui-là, c'est Antoine. Sa mère est morte en lui donnant naissance et son père ne lui fait que des reproches, le frappe, l'injurie. Et son frère et sa sœur ont du mal à supporter de devoir le protéger des autres enfants qui sont méchants avec lui et l'humilient sans cesse. Et pourtant, Antoine n'est pas l'idiot qu'on croit, il est hypermnésique par exemple. Il communique avec la nature bien mieux qu'avec les humains, il vit dans un monde différent et il a une sorte de don de double vue, un don de prophétie. Ses rêves l'avertissent de ce qui va se passer. Pas mal ça, non ?
Ouais, d'accord, et médium quoi.
Un peu, voilà. Donc Antoine, c'est une sorte de peau de tambour tendue entre le monde et les hommes, averti avant tout le monde des catastrophes. Et pourtant, il n'a pas su empêcher son ami Florence, 16 ans et demi, de mourir. Et c'est lui qui la retrouve, en fait. Et c'est lui qu'on accuse, bien sûr. Et il a beau répéter qu'il n'a rien fait, personne ne le croit. Et puis c'est plus facile de le condamner. Alors il prend 15 ans de tôle, 15 ans pour rien. Le coupable idéal. Et quand il revient dans son village, il se retrouve absolument seul. Tout le monde est persuadé qu'il a tué cette jeune fille, qu'il est mauvais et dangereux. Et il s'animalise de plus en plus, il chasse pour manger. Il est dépourvu de tout, il n'a plus d'eau, plus d'électricité. Il est apeuré à l'idée qu'on vienne le chercher pour le mettre en prison. Et c'est bien qu'il y a passé déjà 15 ans sans avoir commis la moindre faute. Alors ça peut recommencer. Eh bien voici, c'est un roman qui m'a fait pleurer. Comme une
non.
Petite chose fragile.
Eh ben dis donc.
Absolument.
Bah en même temps, ça n'a pas l'air très très rigolo non plus.
Non, mais c'est très beau, très émouvant. Tout est écrit du point de vue d'Antoine, avec sa langue très étonnante, drôle, qui court sur les mots comme ça, qui invente des images, des métaphores. C'est très très beau, c'est très très bien écrit. Et franchement, c'est très 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 émouvant. Voilà, j'ai adoré.
Bon, alors ça, c'était Simple de Julie Estève, qui est paru aux éditions Stock. Et on a tout de suite, c'est une deuxième île, c'est Haïti.
Exactement, c'est Ne m'appelle pas capitaine de Lionel Trouillot chez Actes Sud. Alors, Haïti, donc Port-au-Prince, Haïti, un pays ravagé par les calamités climatiques et politiques. Alors, en vrac, les cyclones, les duvaliers, Papadoc, Babydoc, les tontons Macout et le séisme de 2010.
Et un petit peu le vaudou.
Voilà. La misère côtoie les beaux quartiers hautement sécurisés, parce que la violence surgit très très vite. La misère a quelquefois la possibilité de se révolter devant le luxe des nantis. Mais on peut vivre sans s'apercevoir de rien, bien à l'abri dans son quartier, derrière les grilles, entouré de gardes du corps et d'employés bien policiers.
Ouais.
Aude, oui.
Oui, c'est un petit peu comme au Cap, comme dans toutes les villes où il y a des très riches et des très très pauvres.
Voilà, exactement. Les deux mondes se côtoient sans se toucher, en fait. Hein. L'un est protégé de l'autre. Et Aude, c'est une de ces héritières-là, en fait, une jeune femme qui n'a jamais été plus loin que son lycée et les différentes propriétés de son cercle d'amis, en fait, son cercle familial. Elle a toujours fréquenté et uniquement fréquenté ses cousins. Elle a joué avec, elle a sorti avec, elle a fumé, bu avec, elle a couché un peu avec. Tant que ça ne sort pas de la famille, tout le monde est d'accord.
Une boutin, quoi.
Voilà.
D'accord. Oh, pardon.
Et la seule chose interdite, tabou, c'est de rencontrer les autres, les pauvres, les loqueteux qui font peur. Mépris de classe, arrogance, sont les fondements de cette grande bourgeoisie-là.
Bon, c'est pas comme la nôtre du tout, d'ailleurs.
C'est vrai. De la grande bourgeoisie, c'est ça que j'aurais dû dire, en fait.
Ouais.
Sans trop bien savoir pourquoi, mais ça fait suer sa mère et ça c'est déjà bien, elle se lance dans des études de journalisme et doit faire un reportage sur un quartier qu'elle ne connaît pas. Alors c'est une belle occasion d'aller voir ailleurs. Et elle est aiguillée par son oncle, un type qui a tout raté, compris son mariage éclair, de même pas une seule nuit, qui vit tout seul et qui lui parle d'un type qu'on appelle capitaine. Il devrait pouvoir lui raconter la mémoire de ce quartier qu'elle ne connaît pas. Et ce quartier s'appelle Morne Dédé. J'adore ça. C'est génial d'appeler un quartier Morne Dédé.
Bah, ça me rappelle Morne Galant d'un autre roman qui vient de sortir qui s'appelle Les chiens aboient là où les chiens aboient par la queue. Et c'est un petit peu la même chose, mais c'est à la Guadeloupe.
D'accord. Oui, je me souviens, tu m'en avais parlé de ce roman. Évidemment, la rencontre entre cette petite poulette naïve et le vieux noir tonitruant, parfois effrayant, aux mille vies, aux mille blessures, expert en arts martiaux, va prendre des tours et des détours, parce qu'il faut s'apprivoiser. Il va lui parler, il va lui raconter le quartier, son quartier, dans lequel il a toujours vécu, ses histoires de mort, d'amour, de misère, ses beautés, son engagement dans la lutte armée contre la dictature, aux côtés d'une femme passionnée, passionnément aimée aussi, mais qu'il a abandonnée et lui a brisé le cœur. Le Morne Dédé, c'est un vrai apprentissage pour Aude. Elle est d'abord accueillie à coups de pierre, et puis elle y trouve des amis, des jeunes comme elle, que protège Capitaine en leur offrant un toit et à manger, et lui semble enfin avoir trouvé sa famille. Moi, j'ai trouvé que c'était un roman vraiment très fort. Le personnage du Capitaine est captivant, très émouvant, et l'écriture est vraiment magnifique. J'ai totalement succombé pour ce roman.
Eh ben, ça en fait deux, donc c'est Ne m'appelle pas Capitaine de Lionel Trouillot, qui est paru chez Actes Sud. Pardon ?
Je ne t'ai jamais appelé capitaine.
Non, 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 commandant, ça ira très bien. Et donc, comme musique, on en est toujours aux chimpanzés frigorifiés.
C'est ça, exactement. Et c'est A Certain Romance.
De ?
Arctic Monkeys.
Voilà, merci beaucoup, Dans.
Il n'y a pas de quoi.
Bon après-midi, bye bye.
À toi aussi, au revoir.
Salut. We'll be right back.
to see it's a little different around here. Don't get me wrong, no, there's boys in bands and kids who like to scrap with pool cues in their hands. And just 'cause he's had a couple of cans, he thinks it's alright to act like a dickhead, don't you know? Oh, it's a funny thing, you know. We'll tell him if you like, we'll tell him all tonight. They'll never listen because the minds are made up. Of course it's all okay to carry on that way, but I said no, oh no. Well, you won't get me to go. Not anywhere, not anywhere. No, I won't go. Oh no, no. I've known him for a long, long time, and they might overstep the line, but you just cannot get angry in the same way. No, not in the same way. So not in the same way.
Des éditeurs avec une maison qui fleure bon, l'accent du sud-ouest et les souvenirs de vacances. C'est Gilbert Noguès, responsable de la collection du Noir au Sud à Cairn Édition, qui est avec nous. Bonjour Gilbert.
Bonjour Patrick.
Donc 21 ans d'existence pour les éditions du Cairn qui sont basées à Pau. C'est défense de la culture et du patrimoine des Pyrénées et du Sud-Ouest. Et donc on va parler particulièrement de la collection du Noir au Sud qui édite des polars et des thrillers et des romans noirs.
Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc c'est parti d'une idée de Jean-Luc Herrebel, donc qui est le directeur et le fondateur des éditions Cairn à Pau. Et cette collection, il l'a faite un petit peu parce que c'est d'abord avant tout un passionné de littérature policière. Et il y a 5 ans, il a commencé par éditer les 3 premiers titres de cette collection. Ça c'était en 2013. Et puis donc aujourd'hui. On est 5 ans plus tard, il y aura 65 titres à la fin de l'année. Et voilà, ça a commencé. Et puis surtout cette année avec 21 titres publiés dans le courant de l'année 2018.
Ah ouais.
C'est une progression assez remarquable. Tout ça, c'est. c'est à la fois lié par la notoriété qu'a pris un petit peu la collection dans la région, dans le Grand Sud-Ouest, et puis surtout par la qualité d'auteur que l'on commence à croiser au fil des rencontres, des signatures, dans les librairies et sur les salons. Voilà.
Et du côté ligne éditoriale, donc il n'y a pas de roman en dehors du Béarn et des Pyrénées ?
Alors, la ligne éditoriale, on peut la mettre au niveau de trois points principaux qui sont d'abord pas de restriction de genre en matière de la collection, une politique d'auteur et puis une identité graphique. Ce sont un peu les trois points sur lesquels on s'est focalisé pour lancer cette collection. Donc, pas de restriction de genre, c'est-à-dire que on passe aussi bien par le policier classique à la française, avec le flic, le gendarme, etc., l'enquête classique. On a aussi bien du noir, de la littérature noire, que ce soit du genre social ou politique. Donc ça, ça devient aussi important, et c'est un des axes que l'on développe de plus en plus. Et puis aussi le thriller classique, avec pas forcément des enquêtes menées par des gendarmes. Alors l'essentiel, c'est dans la collection, c'est que il y a deux cadres, c'est-à-dire que ce soit à la fois des textes de qualité, mais ça on en reparlera, mais c'est surtout que ça se passe en région. Et pour nous, la région, on va dire, c'est la région au sens large. Au début, c'était un petit peu, j'allais dire, la rive gauche de la Garonne, et puis on s'étend un petit peu maintenant en disant, en gros, on va regrouper la région Occitanie et une grande partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc ça, c'est le territoire. C'est le territoire d'abord parce que c'est celui de notre zone de diffusion et celui que l'on maîtrise, et la possibilité aussi d'avoir des auteurs locaux, c'est-à-dire qui sont en région, ce qui est, on va dire, plus facile pour les amener sur les salons régionaux, sur les librairies, les FNAC régionales, les espaces, etc., le Clair ou Cultura. Ouais.
Donc si c'est un quelqu'un du Nord qui écrit pour, même en parlant du Béarn, il ne peut pas être publié chez vous ?
Non, c'est pas exclu, c'est le cas, puisqu'il y a eu déjà, on en a publié plusieurs, je pense à Galeux, qui était écrit par quelqu'un qui habite en région parisienne, texte qui nous a fait... et qui répondait à tous les critères de locaux. Donc on sait le faire aussi. La difficulté après, c'est que ces gens-là, ils sont moins disponibles quand on les appelle pour faire des signatures. Donc après, sinon, après vous connaissez, on est sur l'édition, c'est quand même un métier très compliqué, et on peut pas se permettre de financer des avions pour déplacer un auteur pour une signature dans une librairie. Voilà, ça c'est un petit peu compliqué. Donc ce n'est pas exclu, mais c'est vrai que on le voit, l'avantage d'être en région, quand on a quelqu'un qui habite dans les Landes, qui signe dans 15 ou 20 lieux différents dans les Landes, sa notoriété, elle gonfle en quelques semaines, quoi. Voilà. Alors que c'est plus compliqué pour d'autres auteurs.
Et les nouveautés pour la rentrée littéraire, alors ?
Alors peut-être, oui, dans les auteurs, juste, vous en parlez un peu plus, parce que on parlait de politique d'auteur, elle n'était pas simplement géographique, j'allais dire. On essaye de plus en plus d'intégrer de nouveaux auteurs, c'est-à-dire avoir une politique de découverte d'auteurs, parce que y a beaucoup d'auteurs qui sont sans publication depuis très longtemps, qui écrivent des textes très très bien, qui ne trouvent pas un espace dans les grandes maisons d'édition, soit parce que ces grandes maisons d'édition pensent que c'est du régionalisme. Mais bon, quand Bernard Minier, il écrit des histoires qui se passent dans la région toulousaine, personne ne regarde si c'est du localisme qu'il fait ou pas. On regarde la qualité de l'œuvre. Nous, on a aussi une envie, c'est d'intégrer de plus dans cette collection des auteurs qui ont déjà une certaine notoriété. Ça a été un peu l'exemple avec Yves Carchon, Simone Gelin, Gilles Vincent, Patrick Ojol. Voilà, des auteurs qui ont déjà quand même une belle notoriété nationale, qui viennent nous voir parce qu'ils apprécient cette collection pour plein de raisons, la qualité des textes. Le réseau de diffusion, le fait qu'on s'occupe des auteurs, qu'il y a une proximité entre les gens de la communication et des auteurs et qu'on se rencontre souvent, on sympathise tous entre auteurs, on a plaisir à se retrouver et le Sud-Ouest facilite les choses pour les belles bouffes. Voilà, donc c'était ça, voilà.
Parfait. Puis, donc voilà. très vite,
oui.
C'est, voilà. Votre le dernier qui va sortir.
Alors là, les parutions de ce mois-ci, du mois de fin août, là, qui viennent de paraître en août, on a trois titres qui sont parus. L'ombre des derniers Cathares, qui est d'Alain Roumania, qui est une sorte de roman historique, un peu dans l'esprit Van Braun, vous voyez.
Ouais.
Après, il y a Funeste randonnée, qui est de Patrick Nieto, c'est son deuxième ouvrage chez nous, et qui est là, on est sur les pistes d'un tueur en série qui s'abreuve, je veux dire, à la manière d'un sphinx, du sang de ses victimes. Et puis Retour de l'âme, qui est un texte de Philippe Mediavilla, qui se passe dans le milieu du surf, on va dire aller du côté d'Osegor, Pays Basque Osegor, avec quelques passages par le Maroc. Voilà, voilà un peu les trois titres de ce mois-ci.
Eh bien, merci beaucoup, Gilbert Noguès. Merci beaucoup de nous avoir parlé de la collection du Noir au Sud. Et on se quitte avec un titre, parce que vous avez une double casquette, qui est tirée de votre dernier ouvrage qui s'appelle Superman ne volera plus. Ce titre-là, c'est Le Funambule de Jean-Roger Cosimon.
Cosimon, magnifique, magnifique texte.
Merci beaucoup, voilà. Au revoir.
Merci Patrick et bonne journée à vous.
Tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Ça n'aurait servi strictement à rien. Le public partit quand la lune dehors, à travers les trous de la vieille toile, allumait un ciel tout rempli d'étoiles. Le vieux funambule arrivait alors. N'était pas tellement sûr de lui, qui souffrait des reins, qui avait des vertiges, était tout changé, c'était un prodige, oui c'était vraiment le jour et la nuit. Plus besoin d'ombrelle ou de balancier, les sauts périlleux devenaient faciles, il était gracieux, il était agile, comme un demi-dieu sur son fil d'acier. Ce fut ainsi qu'un enfant le vit, un enfant puni ou un fils de pauvre, qui s'était glissé dans l'odeur des fauves et qui le suivait d'un regard ravi. Spectateur fortuit de ce numéro, l'enfant applaudit à tant de merveilles, mais un somnambule, quand on le réveille, comme un funambule, ça tombe de haut. Tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Les gens du voyage sont des gens
très bien.
Et voilà, une rentrée de plus de fête. J'espère que la vôtre a été aussi agréable que la nôtre. Nous vous retrouvons à la fin du mois pour la mensuelle habituelle avec plein de nouveautés. Madine Rentrée littéraire 2018. Lisez bien, bye bye.
Des polars et des notes.